Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Kiran Gessel, Émilie Chaudet, Céline Leclerc, réalisée par Lys Combe, à la prise de son, Léa Le Foll. Le président de la République en Grèce n'a qu'un rôle représentatif. C'est pourtant dans la fébrilité, pour ne pas dire dans l'angoisse, que le reste de l'Europe, les investisseurs et les marchés financiers guettent son élection. Pour la deuxième fois ce matin, le Parlement grec a refusé d'accorder les 200 voix nécessaires à l'élection du candidat unique qui était présenté par Nouvelle Démocratie, le parti majoritaire. Faute d'accord lors de la troisième tentative prévue pour lundi prochain, le Parlement hellénique sera dissous et des élections législatives seront organisées pour les débuts de l'année. Élections que Syriza, le parti de la gauche radicale qui s'était déjà démarqué lors des élections européennes, a de fortes chances de remporter. En tête de son programme, l'arrêt de la cure d'austérité imposée par la Troïka en échange de ses plans d'aide. Une perspective qui a fait chuter la bourse grecque de 20% ces dernières semaines et fait exploser les taux d'intérêt de la dette publique. Alors, c'est toute l'Europe qui s'inquiète. Les efforts commencent à payer, c'est le moment de les consolider, a déclaré Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires européennes, en déplacement à Athènes le 16 décembre. Il faut dire que l'instabilité économique de la Grèce rappelle des mauvais souvenirs au reste de la famille européenne qui craint cette année que le cousin grec ne lui gâche les fêtes. La Grèce va-t-elle replonger l'Europe dans la crise ? C'est notre sujet du jour. Ils sont trois invités pour en discuter ce soir. Kostas Vergopoulos, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, professeur émérite à l'université Paris 8. Vous avez notamment écrit « Mondialisation, la fin d'un cycle » chez Séguier en 2015. Et vous avez aussi dirigé un numéro de la revue Intempestive, c'était en 2013, revue éditée par les éditions L'Harmattan, intitulée « Crise grecque, une crise européenne ». En face de vous, Christian Deboissieux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous êtes aussi membre du Collège de l'Autorité des marchés financiers ainsi que professeur au Collège d'Europe à Bruges. Vous avez notamment alors co-dirigé l'ouvrage « Comment la régulation financière peut-elle sortir l'Europe de la crise » aux éditions de l'ENA. Et c'était cette année, en 2014, c'est ça ?
C'est ça, merci.
Et notre troisième invité est au téléphone depuis Athènes en Grèce. Il s'agit d'Angélique Kouronis. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, correspondante en Grèce, pour Radio France notamment. Vous êtes aussi auteur et réalisatrice. Angélique Kouronis, comme vous vous en doutez, la première question est pour vous ce soir. Après le deuxième vote qui a eu lieu donc ce matin au Parlement et qui n'a pas abouti à faire élire le président de la République, est-ce que les Grecs se sentent à nouveau sous le feu des projecteurs de tout le reste de l'Europe ?
Les Grecs dans leur ensemble, peut-être pas. Le gouvernement et l'ensemble de la classe politique, oui, certainement. Le vote de ce matin a été un vote qui a donné 8 voix de plus à la coalition gouvernementale composée des conservateurs d'Adonis Samaras et des socialistes d'Evangelos Venizelos. Donc il manque 12 voix pour le prochain vote qui aura lieu lundi prochain, le 29 décembre. Ce n'est pas impossible qu'ils les trouvent, mais ce n'est pas pour autant que la stabilité sera...
Ah, je crois qu'on vous a perdu. On va essayer de
vous...
Ah, ça y est. Voilà, il y a eu un petit blanc. Je vous en prie, terminez.
Alors, ce que je disais, c'est que l'instabilité politique que l'on brandit comme un épouvantail sera là qu'il y ait ou pas une élection présidentielle lundi réussie. Parce que, bon, il manque 12 voix à la coalition gouvernementale pour faire élire son poulain, qui est l'ancien commissaire européen Stavros Dimas, mais ce n'est pas pour autant que cette stabilité sera là, puisque en échange de ces votes, le Premier ministre Adonis Samaras a promis des élections anticipées fin 2015. Donc ça voudra dire que le pays, de toute façon, restera en campagne électorale larvée, peu propice à faire des réformes dont le pays a besoin, peu propice à des investissements. Donc en fait, on recule pour mieux sauter.
Donc si je vous comprends bien, en termes de stabilité politique, peut-être même vaudrait-il mieux que les élections aient lieu dès le début de l'année 2015 et non pas à la fin, histoire de ne pas avoir cette tension larvée, comme vous dites.
Bah, c'est en tout cas une théorie et une thèse que défendent beaucoup d'analystes et surtout des analystes qui pensent que quel que soit le gouvernement qui sortira de ces élections, il faudra qu'il ait la majorité absolue et pas une coalition actuellement, une coalition qui est branlante et qui risque de faillir au moindre problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit le gouvernement qui sortira des urnes s'il y a des élections anticipées, donc dès la fin janvier, il y aura des réformes à faire. La Troïka est là, elle exige un certain nombre de réformes qui sont essentiellement des réformes d'austérité, et c'est pas dit que ce gouvernement pourra le faire. Donc il faudrait qu'il y ait un gouvernement vraiment qui a une majorité absolue, qu'il soit de droite ou de gauche, et qui pourra appliquer la politique qu'il choisit.
Alors, Kostas Vergopoulos, on n'a pas rappelé que s'il y a élection présidentielle en ce moment en Grèce, c'était à la décision du Premier ministre actuel, Antonis Samaras, donc de précipiter l'élection du président de la République. Quel était l'intérêt politique d'anticiper cette élection qui devait de toute manière se tenir début 2015 ?
J'imagine qu'il voulait clarifier la situation.
La situation n'était pas claire.
Et je vais même m'expliquer. Clarifier et en quelque sorte la stabiliser. Parce qu'il avait des pressions de deux côtés. Il était pris en sandwich. D'une part, par l'opposition, le Parlement, et qui le contestait fortement. Et d'autre part, l'opinion grecque ne peut plus faire des sacrifices nouvelles. Parce qu'elle est arrivée au bout, elle a atteint ses limites. Il y a énormément de pauvreté en Grèce, du chômage, surtout des jeunes. Et vraiment, c'est un pays tout à fait qui est arrivé à bout. Donc, il lui-même s'était engagé de ne pas ajouter de nouvelles mesures. Mais d'autre part, les créanciers et l'Eurogroupe lui insistaient à imposer des mesures additionnelles. Donc, il a été pris entre les deux, et comme il refusait de prendre, il a voulu, en quelque sorte, en finir avec cette question du président de la République pour s'imposer et démontrer qu'il contrôle la situation, aussi bien en direction de ses électeurs et des députés, et que du côté de créanciers, pour se présenter à la reprise des négociations sur une position de force.
Une légitimité renforcée.
Nouvelle légitimité renforcée.
En quelque sorte, c'est un vote de confiance qu'il a demandé au Parlement.
La raison pour laquelle il a précipité les procédures, alors qu'il aurait pu attendre 2 mois. Bon, il a pensé que peut-être 2 mois, ce n'est rien. Ça vaut mieux clarifier tout de suite les choses.
Un pari plutôt osé, puisque, donc, comme vous l'avez dit, des négociations sont encore en cours entre la Grèce et la Troïka, rappelons le FMI, la Banque Centrale Européenne et l'Union Européenne qui accordent donc les prêts à la Grèce. Il manque une tranche d'aide, 1,8 milliard d'euros sur les 240 milliards au total qui auront été versés à la Grèce. Et les négociations achoppent sur les conditions. Est-ce que c'était du coup un mauvais moment, Christian de Boissieu, pour Antonis Samaras?
Écoutez, moi je suis d'accord avec Kostas, c'est-à-dire que la Grèce est un peu arrivée au bout d'un cycle très compliqué, avec un taux de chômage. Alors, Kostas a les chiffres en tête, mais je l'ai dit pour tout le monde, hein. Taux de chômage de 26-27% et taux de chômage des jeunes 60% sans doute.
64.
Et encore sont des chiffres qui peut-être sous-estiment la réalité.
Le taux le plus élevé en Europe.
Voilà, donc moi je suis inquiet quand je regarde effectivement d'abord la situation politique. C'est pas à moi à donner des leçons politiques à la Grèce, et je ne me mêlerai certainement pas des décisions qui sont en train d'être arrêtées ou pas arrêtées, mais je constate en tout cas aujourd'hui que le pari du Premier ministre, il n'est pas gagné. et qu'il voulait de la clarté, il voulait de la rapidité. Il aura peut-être la rapidité, mais il n'aura pas nécessairement de la clarté. Du point de vue du front politique, ça va être assez compliqué, l'année 2015, du côté grec. Vous m'interrogiez sur les relations entre la Grèce et ses créanciers, c'est-à-dire la fameuse Troïka. Moi, je pense que l'Europe devrait être peut-être un peu plus pragmatique dans cette affaire. La Troïka, c'est à la fois l'Europe, c'est-à-dire Union européenne, c'est-à-dire Commission européenne et Banque centrale européenne. Et puis le troisième élément du triangle, c'est le FMI. Mais le Fonds monétaire international, même s'il joue un rôle important, pour moi, il est quand même en deuxième ligne derrière l'Europe. Donc si l'Europe donnait un signal en tenant compte un peu de ce que j'appelle un principe de réalité, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'ajouter des mesures d'austérité à une austérité qui est déjà relativement importante. Cette année, en 2014, on prévoit une toute petite croissance, 0,6%. Et je regardais les prévisions du Fonds monétaire ou de la Commission européenne pour l'année prochaine, elles me paraissent très optimistes pour 2015. C'est-à-dire qu'ils prévoient une croissance, disons, à 2,9%, c'est-à-dire près de 3%. Je ne vois pas d'où elle va venir, moi, cette croissance. Et donc, situation extrêmement compliquée. Moi, depuis le début, la crise grecque a commencé fin 2009. Il y a eu des épisodes, il y a eu différents épisodes. Les Allemands ont commencé par dire qu'ils n'aideraient pas la Grèce, qu'ils avaient déjà payé pour l'Allemagne de l'Est. Et puis, ils sont venus, heureusement, accepter ce qui a été fait dans les plans de sauvetage de la Grèce. Je termine en disant que maintenant, moi, je pense que l'Europe doit donner un signal comme quoi elle donne un peu plus de temps à la Grèce contre un engagement de poursuite des réformes et donner un peu plus de temps.
En parlant de signaux donnés par l'Europe à la Grèce, ils n'ont pas manqué ces derniers temps durant donc les deux premiers tours de la présidentielle. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a dit qu'il souhaitait voir le visage connu, c'est-à-dire donc le président présenté par le parti Nouvelle Démocratie. Angélique Kourounis, comment cela a été pris en Grèce? Ces sortes, on les a appelées ici un peu les consignes de vote données par les dirigeants européens qui ont dit ça et là, eh bien, nous souhaiterions que le président présenté par Nouvelle Démocratie soit élu.
Écoutez, je dirais que c'est pas la première fois qu'il y a une ingérence politique crue, comme on dit en grec.
Il y en a. Oui, ici on parle de consigne de vote, là-bas d'ingérence crue.
Ingérence crue, oui, omis, comme on dit en grec. Ça s'est fait en 2012, lors des élections de juin 2012, entre les deux tours. Le président Hollande a d'ailleurs donné une interview au journal télévisé d'une chaîne privée le plus vu. Ça s'est répété aussi aux dernières élections municipales européennes de 2014, où nous avons eu la visite de Mme Merkel, et puis un certain nombre de ministres européens qui sont passés, M. Moscovici, qui est à l'époque ministre des Finances. Donc l'ingérence est quelque chose de continuel depuis le début de la crise. Et c'est très très mal vécu par les Grecs, parce qu'ils ont un peu l'impression que, outre le fait qu'on les considère dans le reste de l'Europe comme des gens qui volent et qui trichent sur l'Union européenne, on aurait tendance à penser que la Grèce est un peu une république bananière et qu'on doit dire qui voter. Et sur ce point-là, moi j'aimerais insister sur une chose qui est que tous les gens qui ont défilé à Athènes depuis 2012 jusqu'à très récemment pour donner des consignes de vote, comme vous l'avez si bien dit, ont tous donné des consignes de vote qui vont dans le même sens, c'est-à-dire il faut voter européen. Autrement dit, il faut voter pour les partis qui défendent la politique d'austérité qui jusqu'à présent n'a pas donné de résultat. Le PIB a quand même été réduit d'un quart. Et c'est quand même les partis qui étaient au pouvoir ces 30-40 dernières années, les conservateurs et les socialistes.
En même temps, Angélique Kourounis, ce n'est pas parce que Jean-Claude Juncker dit « je voudrais que les Grecs votent pour les partis pro-austérité » que les Grecs vont le faire.
Mais par contre, lorsqu'on dit aux Grecs qui sont déjà à genoux « il faut voter européen, sinon l'Europe ne pourra pas être solidaire » et c'est ce qui a été dit en 2012 et répété en 2014, effectivement, ça peut influencer le vote des gens qui n'ont pas effectivement peut-être toutes les cartes dans les mains. Mais là où je voudrais vraiment insister, c'est qu'à aucun moment, aucun des décideurs de la commission ou des gens qui ont vous dit qu'ils aimeraient bien revoir des gens aux faciès connus aux affaires en Grèce, n'ont dit aux Grecs, attention, ne votez pas le parti néo-nazi Obdoré. À aucun moment, ni en 2012, ni en 2014. Donc les Grecs pensent que les directives qui sont données sont des directives extrêmement fortes et pas vraiment décentes. Et ça, c'est un avis qui est partagé par tout le monde, y compris les gens qui votent conservateurs ou à droite. L'ingérence étrangère est mal perçue de façon générale en Grèce.
Kostas Vergopoulos, vous vouliez réagir sur cette question de l'ingérence.
Mais écoutez, la presse économique internationale et mondiale insiste que les yeux de toute la planète sont concentrés sur trois sujets. La Grèce, le rouble, le pétrole. Donc la Grèce fait un problème central, non seulement européen, mais mondial. J'insiste sur le fait que la crise grecque, elle a très peu de spécificités grecques, parce que surtout, c'est surtout un test pour la situation de la zone euro et de l'Europe. C'est un test et qui tourne mal, parce que le problème principal, avant tout autre, c'est celui de l'austérité. En Grèce, je vous signale qu'au cours des 5 dernières années, il y a eu une réduction drastique des revenus et des retraites de 40%. Il y a eu une contraction du PIB de moins 25% du PIB. Le problème, c'est que tout cela, on le retrouve en d'autres proportions, mais toujours dans le même sens, c'est-à-dire négatif, dans tous les pays de l'Europe, sans exception. En Italie, en Espagne, non seulement dans les pays de la périphérie européenne, mais en France, même en Allemagne. C'est-à-dire, je veux dire par là, la politique de l'austérité, c'est le remède qu'impose l'Allemagne à ses partenaires et que ses partenaires acceptent pour l'appliquer. Alors voilà, la Grèce est victime de cette politique d'austérité qui est moins, un remède qui est moins que douteux quant à son efficacité. Lorsque M. Moscovici dit qu'il est allé à Athènes, il a dit « Moi, je ne vois pas d'austérité, je vois seulement un programme de modernisation de l'économie ». Alors, c'est vraiment indigne de parler comme ça dans un pays qui est la première victime de cette politique d'austérité, qui vit l'austérité dans sa peau, mais c'est en même temps tous les autres pays qui suivent dans la même voie de l'austérité. Et je vous dis que les milieux économiques internationaux, les analystes et les marchés sont convaincus et que la zone euro apparaît comme le trou noir de l'économie mondiale, qui tire l'économie mondiale vers le bas.
Alors, ces politiques d'austérité viennent de l'extérieur, dites-vous, elles étaient néanmoins relayées par certains partis
de l'extérieur de la Grèce,
par Nouvelle Démocratie, adopté, qui a accepté certaines...
Adopté par le gouvernement.
Tout à fait, a accepté certaines de mettre en place certaines mesures.
Alors, à titre de comparaison, je vous dis, aux États-Unis, par exemple, qui sont vraiment sortis de la crise, avec en ce moment 3 et 4% de croissance, le président Obama, ils n'ont jamais eu d'austérité. À aucun moment, depuis la crise de 2008-2009, ils n'ont pas fait appel à une politique d'austérité.
Alors justement, il y a un parti en Grèce qui propose de sortir de l'austérité.
Ils ont fait tout le contraire.
Syriza, est-ce que la proposition de Syriza d'arrêter les cures d'austérité, est-ce que c'est ça qui fait peur aux dirigeants européens, Christian de Boissieu ?
Écoutez, il y a eu un débat en 2011 à propos de la question de savoir si la Grèce devait ou pas rester dans la zone euro. Bon, ce débat risque de revenir. Moi, ma position, je le dis par souci de transparence, c'est que je pense qu'il y aurait eu quand même plus d'inconvénients que d'avantages. Plus d'inconvénients à sortir parce qu'il y aurait une inflation considérable. La dette, la Grèce aujourd'hui, malheureusement, vous la comparez tout à l'heure, Kostas, à l'Italie, du point de vue des taux d'intérêt qu'elle paye sur le marché, c'est pas comparable, puisque à 10 ans, l'État grec, aujourd'hui, quand il emprunte à 9%. L'Italie emprunte à 2%. Bon, donc les marchés, expression abstraite, mais qui correspond ici à du concret, les marchés sont en train de massacrer la Grèce, et je trouve ça nul, immoral, et ça veut dire que la Grèce est sortie des marchés. Elle a besoin de la Troïka et des créanciers. Simplement, moi, ce que je dis, c'est que, donc, il ne s'agit pas d'arrêter le programme. Il s'agit...
Vous voulez dire que la Grèce ne peut pas arrêter le programme ?
Elle ne peut pas se financer sur les marchés. Ce qui a fait remonter les taux, c'est non seulement l'incertitude politique en Grèce, mais c'est un bruit couloir ou pas de couloir qui disait que la Grèce allait, de manière prématurée, sortir du programme. Et ça, ça a fait monter les taux. Je vous dis qu'à 9%, même si à certains moments, la Grèce payait 30% sur le 10 ans, c'était terrible. 9%, c'est complètement décalé par rapport aux autres pays de la zone euro. Je le regrette, les marchés sont en train de massacrer la Grèce et je trouve ça injuste. Je dis simplement, donc, ils ont besoin, la Grèce a besoin de nous, et nous, autres pays européens, et là je rejoins Costas, il faut continuer à jouer le jeu de la solidarité comme on l'a fait. Simplement, je pense que le calendrier de l'ajustement depuis le début n'est pas le bon. On demande à la Grèce de s'ajuster trop vite en matière de finances publiques. Un pays qui a 175% de ratio de dette publique ne peut pas revenir dans les clous rapidement. Il ne reviendra pas à 120% rapidement. L'Italie, elle a un ratio de dette publique qu'elle avait quand elle est rentrée dans l'euro en 99. 120%.
Angélique Kourounis, depuis Athènes, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit Christian de Boissieu, à savoir que si Syriza venait au pouvoir demain, il ne pourrait pas mettre en place cette promesse qu'ils sont en train de faire en ce moment d'arrêter les cures d'austérité?
C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit il ne pourrait pas sortir du programme d'ajustement. Mais il y a un débat sur le programme d'ajustement lui-même. C'est ça que j'ouvre.
Merci pour la précision.
Je pense que le vrai problème, M. de Boissieu l'a abordé, c'est cette histoire de la dette. La Grèce a 175% de dette de son PIB. Au début de la crise, ce pourcentage était à 120% du PIB. Et déjà à l'époque, on disait que c'était intenable. C'est le vrai problème. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la proposition du Syriza est de dire... Puisque le problème est la dette, et quelles que soient les réformes engagées, tant qu'on ne parlera pas de la dette, et jusqu'à présent, on évite soigneusement de le faire, je voudrais quand même rappeler qu'il avait été dit en 2012 que si la Grèce arrivait à dégager un excédent primaire, on pourrait parler à nouveau d'une décote de la dette ou d'une plus grande maturation de son remboursement. La Grèce a saigné à blanc les Grecs, avec des mesures plus ou moins justifiées, plus ou moins justes, pour arriver à ce fameux excédent primaire. Elle l'a réussi. On peut dire oui ou non qu'on était d'accord avec les réformes qu'elle a fait. Elle a réussi à cet excédent. Donc la partie de ses créanciers est de dire, bon, bah maintenant, discutons de la dette. Or, on n'en discute pas. Et là, les Grecs se sentent complètement floués, y compris le gouvernement, en disant, mais attendez, on a fait contre mauvaise fortune, bon cœur, on a fait notre part du boulot, vous ne faites pas le vôtre. Donc ça, c'est vraiment la clé du problème. Un pays avec 175% de dette de son PIB ne peut pas avancer. Et la proposition du Syriza est de dire, faisons pour la dette, qui est un problème européen, puisque c'est essentiellement les États européens qui la détiennent, faisons une conférence comme on a fait en 1953 en France, où on a discuté de la dette de l'Allemagne et où il a été décidé, en échange d'un certain nombre de réformes, de l'effacer. Et c'est ça la position du Syriza. Tout le reste viendra après.
France Culture, du grain à moudre.
Mélanie Chalandon.
La Grèce va-t-elle replonger l'Europe dans la crise? C'est notre débat ce soir et on en débat avec Christian de Boissieu, professeur d'économie à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne à Sicco, collège d'études à Bruges, avec Costas Vergopoulos, économiste, professeur émérite à l'université Paris 8, et avec Angélique Kourounis, journaliste correspondante de Radio France à Athènes. Costas Vergopoulos, vous vouliez réagir aux propos d'Angélique Kourounis?
Je voulais vous préciser qu'un problème du fameux Grexit, c'est-à-dire de la sortie de la Grèce de la zone euro...
Est-ce que cette question, elle se pose à nouveau d'ailleurs, la question de la sortie de la Grèce de l'euro?
Je suis en train de répondre à cette question.
Je vous en prie.
Et cette question ne se pose plus pour la bonne et simple raison que la Grèce fait partie maintenant du système européen, de l'union bancaire. C'est-à-dire, tout ce qui se passe en Grèce concerne le système de l'euro, ça va faire un événement systémique. On ne peut pas, c'est-à-dire, en ce moment, la Grèce est liée, attachée pour toujours. Et depuis la Constitution, les quatre banques principales en Grèce ont été reconnues comme systémiques par l'autorité bancaire européenne. Donc, on ne peut plus revenir en arrière. Or, le problème est que le problème qu'affronte la Grèce en ce moment, ce sont le problème de la zone tout entière qui explose en Grèce. Et la question principale, j'ai dit tout à l'heure et je le répète, c'est la question de l'austérité. Est-ce qu'on va poursuivre aveuglément dans cette direction de l'austérité que le FMI lui-même a reconnu que c'était une erreur plusieurs fois, à plusieurs reprises. Olivier Blanchard, directeur d'études du Fonds monétaire international, Madame Christine Lagarde, ils ont dit à plusieurs reprises que c'était une bêtise, la voie de l'austérité. Elle n'a appliqué dans aucune autre partie du monde, ni aux États-Unis, ni au Japon, ni ailleurs. Partout, on a fait le contraire. L'expérience des années 30 nous montre que c'est le contraire qui réussit. Et en Europe, on continue dans cette politique aveugle, on insiste, on persiste, et on a la victime qui est en première ligne, c'est la Grèce, mais les autres suivent.
Est-ce donc, que je vous voulez dire, Kostas Vergopoulos, que ce soir, on pourrait presque renverser la question et se demander non pas si la Grèce va replonger l'Europe dans la crise, mais si l'Europe va replonger la Grèce dans la Grèce, crise, Christian de Boissieu?
Je me résume, la Grèce est un banc d'essai pour cette politique d'austérité qui concerne toute l'Europe, mais que l'Europe dans le système planétaire.
Alors, Christian de Boissieu.
D'abord, moi je reviens sur le débat sur le rythme, qui me paraît central. Quand en 2010, on a concocté les premiers plans de sauvetage et les premières conditions posées à la Grèce, on a fixé des rythmes d'ajustement du côté des déficits publics, de la dette publique qui n'étaient pas réalistes. Et on est encore là-dedans, c'est pour ça que je dis que certes, il faut que la Grèce réduise ses dépenses publiques, il faut qu'elle augmente ses recettes fiscales, c'est tout le débat sur l'économie informelle. Et ça ne peut pas se faire en 6 mois. Il faut des années, c'est des problèmes de réforme fiscale. Nous, on a mis des années aussi à le faire. Je dis simplement que la Banque Centrale Européenne fait son boulot. Elle ne peut pas faire beaucoup plus. Elle peut faire un peu plus. On va le voir en janvier. Monsieur Draghi va sans doute annoncer des mesures qui vont rejoindre ce qu'a fait la Réserve fédérale américaine. Et tant mieux, la baisse de l'euro...
Avec 6 années de retard.
Oui. Oui, mais attends, je défends, je parle d'aujourd'hui. Et j'ai dénoncé l'inertie de la BCE en son temps. Surtout quand, au mauvais moment, elle a monté son taux directeur en 2008.
La BCE va faire en janvier de 2015 ce qu'elle aurait dû faire 6 ans avant.
Totalement d'accord. Oui. Je dis simplement qu'on a eu en 2014, la seule bonne nouvelle qu'on ait eue en Europe, ça a été la baisse de l'euro. Et qu'à côté du débat sur l'austérité, il y a le débat sur la compétitivité. On n'en a pas du tout parlé. Comment améliorer la compétitivité d'un pays comme la Grèce?
Angélique Kouronis, est-ce que la Grèce a amélioré sa compétitivité?
Oui, mais il faut du temps. Il faut du temps. On ne peut pas demander à la Grèce de faire en 3 ans ou 5 ans ce qui n'a pas été fait en 30 ans. Les réformes qu'on a demandées à la Grèce depuis 2010 sont des réformes qui demandent des moyens, qui sont des réformes extrêmement profondes. J'en prends qu'une que les Grecs attendent tous, quelles que soient leurs convictions politiques, qui est la réforme visant à une justice fiscale, que tout le monde paye en fonction de ses revenus. Ce n'est pas le cas en Grèce. Comme le contrôle de l'État n'existe pas et que les fonctionnements étatiques sont absolument quasiment absent, eh bien, ceux qui payent, c'est ceux que l'État peut contrôler, les fonctionnaires et les retraités.
Alors,
donc, il faut effectivement une meilleure compétitivité, c'est vrai, mais il faut surtout des réformes, et ces réformes nécessitent du temps. Et depuis 2010, la Grèce demande plus de temps pour faire ces réformes, et on n'a jamais voulu, à l'époque, lui donner ce temps. Maintenant, on est obligé de le lui donner. Mais les dégâts sont énormes entre-temps.
Et alors, ces derniers temps, pourtant, les commentaires de félicitations, d'encouragement se sont multipliés auprès des dirigeants européens. Pour n'en citer qu'un, le ministre des Finances allemand, Wolfgang Schäuble, a dit les réformes commencent à porter leurs fruits pour la population grecque. Vous confirmez, Angélique Kouronis?
Certainement pas. Certainement pas. Il se félicite lui-même de l'application d'une politique qu'il a dictée. Il ne va pas dire que c'est une erreur. Mais s'il y a une amélioration, l'amélioration est dans les chiffres, intrinsèquement. Elle n'est certainement pas au sein de la population grecque. Les Grecs ne voient pas l'amélioration dans leur quotidien. Un tiers de la population n'a plus accès aux soins. Un tiers de la population est sous ou proche du seuil de la pauvreté. La Grèce a perdu un quart de son PIB. Il faudra des dizaines et des dizaines d'années pour remonter la pente.
Les réformes
sont peut-être peut-être possible, par exemple, ce fameux excédent budgétaire qui est avancé et que la Grèce a réussi, bah, il faut savoir qu'il va totalement être remboursé en mai parce que la Grèce, elle a une dette à payer à la BCE. Donc, dès la première créance, ce fameux excédent budgétaire qui justifie tous les sacrifices disparaît. Les Grecs ne le voient pas dans leur quotidien et c'est tout le problème.
Christian de Boissieu, et ces améliorations, non. C'est des améliorations en trompe-l'œil?
Non. Mais ça non, prend beaucoup de temps. Depuis le début, j'insiste sur le calendrier et le temps. Le calendrier de départ n'était pas crédible, il reste incrédible. Je dis simplement, un, d'accord avec Costas, le débat sur est-ce que la Grèce va sortir ou pas de l'euro n'est plus un débat d'actualité. Première idée, la Grèce va rester dans la zone euro. C'est son intérêt et c'est le nôtre aussi.
Même si Syriza passe au pouvoir.
Deuxièmement, il faut lui donner plus de temps. Début 2015, dans le cadre des nouvelles négociations, il faut que l'Europe fasse comprendre au FMI qu'il a un peu compris, mais peut-être pas assez, qu'il faut donner plus de temps. Troisièmement, en échange de ce temps, la Grèce doit s'engager à poursuivre un certain nombre de réformes structurelles. Et quatrième temps, l'Europe, nous, le reste de l'Europe, il faut qu'on maintienne cette solidarité, y compris financière, vis-à-vis de la Grèce. Je répète, 9% ce que paye l'État grec à 10 ans d'échéance, alors que l'Italie paye 2%, l'Espagne 1,60 et la France 0,80, ça n'est pas possible.
Costas Vergopoulos.
Je voulais vous dire, Monsieur Klaus Regling.
Donc le patron du MES, le mécanisme de
alors,
solidarité
il vient
économique.
De dire hier, d'annoncer que la Grèce, il a félicité la Grèce pour la réalisation de ses réformes. Et comme le premier pays au monde qui a accompli autant de réformes au cours de ces dernières années. Alors, quel est le prix qui a été payé pour cela? Je vous dis tout simplement, excusez-moi de la comparaison, c'est l'opération qui a réussi et que, alors que le malade est mort, voilà le résultat. Les deux ne sont pas contradictoires. Ce que dit Angelique Kourounis sur la pauvreté en Grèce, sur la déséance sociale, humaine, le désastre humanitaire, c'est vrai, mais c'était le prix à payer pour être rémunéré, récompensé par les paroles de Regling et de M. Schäuble pour qui nous disent « Félicitations à la Grèce, elle a accompli le plus de réformes au monde ». Mais voilà le prix à payer. Le prix à payer, c'est le désastre humanitaire, social et économique.
Angelique Kourounis.
Il faudrait s'entendre ce que l'on met dans le mot réforme. Quand on dit quand on utilise le mot réforme, c'est-à-dire qu'on change quelque chose vers quelque chose de mieux. Les réformes en Grèce n'ont jamais été qualitatives ces quatre dernières années. C'est des réformes qui se résument en termes de chiffres. Il faut licencier tant de personnes dans la fonction publique parce que la fonction publique est pléthorique, d'accord, on est tous d'accord, elle est pléthorique, mais quand on veut licencier des gens, on fait une évaluation de leurs compétences et une évaluation du besoin de l'administration. Or, ça n'a pas été fait, même si on a dit sur le papier que ça devait être fait, ça n'a jamais été fait. Toutes les réformes ont été faites dans l'urgence, sans aucun ordre, et le résultat est que peut-être qu'au niveau des chiffres, on arrive à des résultats qui font que le pays reçoit des félicitations, mais en termes d'efficacité, de fonctionnement de l'État, de répercussions sur la population et d'espoir qu'on donne à une population en lui disant « Vous avez souffert, vous avez fait beaucoup de sacrifices, mais regardez, on s'en sort », c'est zéro.
Alors, on parle beaucoup des torts de la Grèce. Il faut se rappeler peut-être que la crise de l'euro, les responsabilités ne sont peut-être pas que grecques. Il y a un problème, et vous l'avez tous souligné oui. ces dernières années, il y a un oui. problème de gestion interne de la monnaie unique. Est-ce qu'on a progressé un petit peu sur cette question, Christian de Boissieu?
Moi, je trouve qu'enfin, la Banque Centrale Européenne, surtout depuis juin 2014, est devenue pragmatique. Alors, on a perdu des années, mais enfin, les deux pragmatiques, ce qui a permis de faire baisser enfin l'euro. On termine l'euro à 1,22 $. On avait commencé à 1,35. C'est bon pour la compétitivité de tous nos pays, y compris la Grèce, même si malheureusement, je dirais, la Grèce n'a pas suffisamment de produits à vendre. C'est ça le problème aussi. C'est que il y a le tourisme, il y a tout ce qui est, disons, marine marchande, il y a un certain nombre de productions agricoles, mais il faut relancer aussi d'autres industries en Grèce. C'est un problème de fond.
Là, vous parlez de la Grèce, mais sur l'euro.
Non, mais sur la gestion de l'euro. La BCE, la Banque Centrale Européenne, fait aujourd'hui son boulot et je pense qu'elle va le faire encore plus parce que
Donc la crise de la dette est résolue.
Non. Nous sommes au bord de la déflation. L'inflation est négative, y compris en Grèce. La Grèce est en déflation. On a parlé du chômage tout à l'heure. face à cette situation de déflation dans certains pays de la zone euro proche de la déflation pour l'ensemble de la zone, la Banque Centrale Européenne va en janvier 2015 prendre l'initiative. Bon, merci Monsieur Draghi et ses collègues. Du côté budgétaire, je pense que la coordination des politiques budgétaires a été mal faite et que moi le reproche que je fais, je rejoins votre collègue à Athènes, c'est que depuis le début, on a un calendrier qui n'est pas le bon. La direction est bonne, mais simplement, on promet aux gens la Lune, mais la Lune, comme disait Keynes, à long terme, nous sommes tous morts. Et en attendant, à court terme, il faut vivre. Et c'est ça le problème du débat sur la Grèce, c'est que vous avez des ajustements qui sont extrêmement coûteux en termes de chômage, les salaires ont baissé de 25%, ce qu'on appelle, de manière aseptique, dans le langage économique que j'aime pas ici, une dévaluation interne. Bon, 25% de moins sur les salaires, il faut à un moment donné que les fruits de ça arrivent. Et donc, je pense que le problème aujourd'hui, il est moins monétaire, il est budgétaire, il est sur l'Europe. Il faut maintenir cette solidarité. Et je termine en disant qu'on est dans un jeu de rôle qui n'est pas très drôle, d'ailleurs, pendant ces vacances de Noël, si je puis dire, où le FMI évoque, parle de la Grèce, les responsables allemands, chacun y va de son petit mot. On est dans un jeu qui annonce une négociation. Mais je suis persuadé qu'on continuera à soutenir la Grèce parce que c'est non seulement l'intérêt de la Grèce, mais c'est l'intérêt de l'Europe aussi.
Kostas Vergopoulos, est-ce qu'il faut craindre que la spéculation qui s'était abattue, on va dire, sur l'euro il y a quelques années, est-ce qu'on peut craindre que cette spéculation reprenne?
Oui, ce qu'on appelle le fonds vautour. Le fonds vautour. Et je vous donne une information. Comme je venais de vous dire, le malade est mort. Nous sommes dans un univers en Grèce de cimetière, excusez-moi, passez-moi l'expression, et se développent des pratiques de capitaux prédateurs. C'est-à-dire, tout est en vente. Des ports, des installations portuaires, et des chemins de fer, des îles. Et tout ce qui appartenait aux morts sont en train d'être vendus à un bon prix, un meilleur prix, des fonds vautours. Et c'est la preuve. D'ailleurs, pour l'ensemble de la zone, je vais donner une statistique, une seule statistique pour mon ami Christian. Et au cours des 6 dernières années, les investissements dans l'ensemble de la zone euro ont été stationnaires, zéro, alors qu'aux États-Unis, ils ont augmenté de 25%. 25% au cours des 6 dernières années aux États-Unis, 0% dans la zone euro, parce que la zone euro s'auto-inflige le choix de l'austérité, qui est tout à fait profondément erroné, qui ne mène nulle part.
J'espère.
Alors, Christian a parlé tout à l'heure de la politique juste de Mario Draghi, de la BCE, mais je signale que s'oppose violemment à ce choix M. Jens Weidmann, qui est le président de la Bundesbank.
Tant pis pour lui.
Tant pis pour lui.
Mais tant pis pour lui, il est minoritaire autour de la table de la Banque centrale.
C'est vrai. Mais j'ai dit que l'Allemagne et les autorités allemandes veulent imposer et continuer à imposer leur choix, alors que Mario Draghi, il a bien compris qu'il faut sortir.
On arrive à la fin de cette émission. Je voudrais vous demander, avant de terminer, si vous connaissez le chanteur autrichien Udo Jürgens, disparu dimanche dernier. Il avait remporté le concours de l'Eurovision en 1966 avec le titre « Merci chérie ». On écoute Grechischer Wein. Grechischer Wein, la chanson a été composée en 1974. Elle raconte la vie des travailleurs immigrés grecs en Occident, en Allemagne, en Autriche, et la nostalgie provoquée par le goût d'un verre de vin. Angélique Kourounis, vous connaissiez cette chanson chantée donc en allemand sur la vie des travailleurs grecs?
Non, j'en ai un peu honte vu ce que vous avez dit. J'aurais dû la connaître, mais non, je ne la connaissais pas. Mais vous savez, il y a toute une génération qui est sacrifiée par cette austérité. Et beaucoup partent à nouveau en Allemagne. C'est un peu l'ironie du sort.
Eh bien, on finira sur ces mots. Merci beaucoup à tous les trois. On doit rendre l'antenne, je suis désolée, monsieur Vergopoulos. Je rappelle que vous êtes économiste, professeur émérite à l'université Paris 8. Christian de Boissieu, merci beaucoup, professeur d'économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ainsi qu'au Collège d'Europe à Bruges. Merci beaucoup, Angélique Kourounis, d'être restée tout le long de cette émission. Je rappelle que vous êtes correspondante de Radio France à Athènes. La discussion se poursuit sur la page du Grain à Moudre sur franceculture.fr. Vous pouvez podcaster l'émission. Demain, le centre commercial est-il toujours le cœur de la société de consommation? Ce sera notre question. En attendant, il est 19h sur France Culture. C'est l'heure du rendez-vous et c'est à vous, Laurent Goumard.
Merci. Dans quelques minutes, c'est le rendez-vous, journal sur le fil de l'actualité culturelle, médiatique et musicale. Un rendez-vous exceptionnel en cette semaine de Noël, puisque c'est à 5 tables rondes qu'on vous invite pour un forum l'année vue par la culture. Ce soir, deuxième rendez-vous, le sujet figure de la guerre contre-enquête, avec Isabelle Lasserre, grand reporter, Romain Goupil, cinéaste, et Aymeric Lucet, photographe.